Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, l'heure du bilan de la visite de Donald Trump dans le Golfe, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Notre invité Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, spécialiste de la région. Bonjour.
Bonjour.
Quel bilan faites-vous, Emmanuel Dupuis, sur le plan politique de ce déplacement de Donald Trump dans ces trois pays du Golfe ?
Bon, déjà, c'est une victoire symbolique. Le président Donald Trump était attendu. Il avait annoncé qu'il ferait cette visite de longue date, et signifiant le repositionnement stratégique que les États-Unis entendent signifier ou caractériser vis-à-vis des pays du Golfe. Une telle visite aurait peut-être été beaucoup moins encline à être positivée avec la précédente administration de Joe Biden. On se souvient que Joe Biden avait vertement critiqué l'Arabie Saoudite, et notamment son prince héritier à l'époque, avant qu'il ne devienne Premier ministre, Mohamed bin Salman, pour l'assassinat d'Adnan Khashoggi en 2016, faisant d'une certaine façon refroidir les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. On le sait, le président Donald Trump est rentré dans une logique de transaction, une diplomatie transactionnelle qui sied parfaitement à ce déplacement. Peut-être davantage à un déplacement en Europe, on aurait pu penser que le président américain aurait fait traditionnellement une première visite à Grande-Bretagne. On sait qu'évidemment la distanciation entre les deux rives de l'Atlantique Nord est de plus en plus forte. Donc c'est une dimension symbolique où le président américain revient au cœur du dispositif et rappelle le rôle structurant, déterminant que les États-Unis veulent incarner dans la région.
C'est d'ailleurs depuis l'Arabie Saoudite que Donald Trump a annoncé la levée des sanctions américaines sur la Syrie. Cela peut avoir un impact, bien entendu, au-delà des frontières syriennes.
C'est un impact, j'allais dire, cataclysmique. Pour la première fois, les États-Unis déjà se rendent compte du soutien possible, ou en tout cas de l'espoir d'une normalisation avec le régime d'Al-Shara, même si ce même président syrien s'était rendu à Paris quelques semaines auparavant. Il faut avoir évidemment à l'esprit que ce processus de normalisation suit son cours. Il est d'autant plus symbolique que ça a été annoncé en présence de Mohamed bin Salman, le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, avec la perspective que une double perspective du reste, que la Syrie rentre éventuellement dans les accords d'Abraham, donc dans un processus de normalisation avec l'État d'Israël, en tout cas qui a eu comme première conséquence de geler l'offensive israélienne dans la partie druze, dans la partie où se situe la communauté druze syrienne, donc à l'ouest de Damas, avec l'idée selon laquelle la Syrie prenait acte, en gros, de la militarisation du plateau du Golan et de la démilitarisation syrienne des régions frontalières de ce même plateau. Donc ça va avoir un impact géopolitique absolument majeur qui va entraîner les autres pays à faire confiance à l'idée que le nouveau régime en Syrie est en train de se transfigurer vers un gouvernement plus inclusif. Au moins pouvons-nous garder l'espoir que cette perspective soit sur le papier de plus en plus prégnante, en tout cas si on écoute le discours qu'en a fait Donald Trump.
Comment analysez-vous le fait que Donald Trump ne s'est pas rendu en Israël lors de cette tournée régionale ?
Sans doute parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait tout ce que le président américain ne veut pas. C'est-à-dire qu'il rompt l'accord de cessez-le-feu qui avait été conclu avec le Hamas. On le sait d'autant plus que désormais il y a la certitude ou la confirmation que les Américains ont dialogué directement avec le Hamas pour obtenir la libération d'un otage américano-israélien ou israélo-américain. On le sait aussi et on l'a compris que le président américain veut que il y ait des accords de paix qui se fassent le plus rapidement possible là où la parole américaine, en l'occurrence la sienne, est engagée, que ce soit vis-à-vis de la situation à Gaza, que ce soit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, que ce soit vis-à-vis du nucléaire iranien. Voilà une autre raison pour laquelle le Premier ministre israélien et le président américain ne sont plus du tout sur les mêmes longueurs d'onde. On en avait déjà eu l'occasion de le constater lors de la visite du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington, au cours de laquelle les Américains, par le biais de Stephen Witkoff, avaient insisté sur l'idée qu'il fallait trouver un accord pour empêcher l'Iran d'accéder au nucléaire iranien, d'accéder à la capacité militaire nucléaire. Et on voit bien que cela ne s'est pas fait en concertation ou en parfaite symbiose, ajoutons-le diplomatiquement, avec les Israéliens.
Mais ce qui ressort de ce déplacement, c'est justement une forme d'optimisme sur le dossier du nucléaire iranien.
Alors, c'est une forme d'optimisme, en tout cas une continuation de l'idée qu'il faille négocier. Alors, avec des positions qui se tendent, avec des exigences qui se formulent, mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que les Israéliens sont tenus marginalisés de ce processus. D'ailleurs, le Premier ministre Netanyahou a fait comprendre qu'il n'y croyait pas, et il l'a fait comprendre directement face à Donald Trump lors de sa visite il y a pas si longtemps à Washington, à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Mais il se trouve que le président américain a décidé de renverser la table, d'avoir des deals, même avec ses contendeurs les plus offensifs, en tout cas les plus significatifs. Et l'idée qui jaillit de cette visite américaine fait que le président américain veut aller vite, très vite, pour essayer de retrouver la place que l'administration Biden avait laissée un peu filer d'un partenariat exclusif entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, sans oublier le Koweït bien sûr, et puis avec l'idée selon laquelle, derrière tout ça, faut-il le rappeler, il y a une volonté de faire du business, car le président américain n'était pas seul. Air Force One était fortement composé de délégations industrielles, enfin de chefs d'entreprise américains. Et de ce point de vue, Mohammed Ben Salman, le prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite, en signant un méga contrat de 600 milliards d'euros de dollars d'investissement aux États-Unis, près de 142 milliards d'achats d'armement, a bien signifié qu'il achetait, au sens littéral du terme, la paix, ou en tout cas une paix transactionnelle, économiquement favorable aux intérêts américains, bien sûr, car une bonne partie de cet argent qui va régénérer la base industrielle de technologie de défense américaine va aussi rendre encore plus prégnant l'idée de ce nouveau Moyen-Orient dans lequel les pays du Golfe sont en train de se réarmer, de réaffirmer leur position militaire, peut-être d'ailleurs aux dépens ou en dépit de ce que voudrait la position israélienne. Et de ce point de vue, la négociation directe que est désormais le cas entre les États-Unis et Israël entre les États-Unis et l'Iran va de pair aussi avec une volonté de plus en plus manifeste des pays de la rive sud du Golfe Persique de dialoguer aussi avec l'Iran. On le sait depuis mars de l'année dernière, le président iranien Pezeshkian et le prince héritier d'Arabie Saoudite avaient signifié leur volonté de normaliser petit à petit, leur relation diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Un autre point important, aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir, les Émirats Arabes Unis et les États-Unis ont signé un accord sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est un domaine dans lequel ce pays du Golfe cherche à s'imposer en s'assurant un accès aux technologies américaines de pointe. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui, mais aussi pour le futur.
Alors, c'est d'autant plus important que les Émirats Arabes Unis le font à 360 degrés, en investissant aujourd'hui avec les États-Unis, mais également en l'ayant fait il y a quelques mois, en l'occurrence à l'occasion du sommet mondial pour l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris du 11 au 13 février dernier, avec un investissement de 52 milliards d'euros promis par les Émirats Arabes Unis en France. Et donc aujourd'hui, on a l'impression que ce qui, dans les années 70 et 80, était qualifié de pétrodollar, avec l'idée sur laquelle les investissements américains allaient vers ces énergies hydrocarburées et donc ces énergies fossiles dont ils avaient besoin pour leur économie, aujourd'hui, on pourrait presque appeler ça des pétro-gigawatts, avec la volonté de la part des Émirats Arabes Unis et des États-Unis de mutualiser leurs forces pour faire face à cette concurrence de plus en plus évidente avec la Chine, qui a pris une avancée qualitative, quantitative et surtout depuis plus longtemps que les investissements occidentaux dans le cadre de l'intelligence artificielle.
Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis.
Merci à vous.
Je rappelle que vous présidez l'IPSE et vous êtes spécialiste notamment de la région du Golfe. Merci. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.